RFI. Grand reportage, Xavier Besson.
L'administration et la bureaucratie de l'Union soviétique, c'est parfois un sujet de plaisanterie, mais en Ukraine, c'est encore une réalité. 24 ans après l'indépendance du pays, le président Petro Poroshenko et le gouvernement d'Arseniy Yatsenyuk se sont lancés dans une réforme de grande ampleur qui vise à décentraliser l'État. Mais dans un pays qui fait toujours face à une guerre hybride dans la région du Donbass, la décentralisation ne va pas de soi. Le projet est très critiqué car il pourrait conduire à terme à accorder une certaine autonomie aux territoires sous contrôle des séparatistes pro-russes. Le projet de décentralisation a déjà été adopté en première lecture le 31 août par le Parlement, un vote qui avait provoqué des violences meurtrières. Ce jour-là, notre correspondant en Ukraine, Sébastien Gobert, était sur place et dans ce grand reportage, il démêle les intrigues autour de cette réforme de la décentralisation.
Ce jour-là, ils étaient plusieurs centaines à manifester devant la Ferkovna Rada, le Parlement, aux cris de honte et de dehors les bandits. Face à un imposant cordon de police, les protestataires étaient réunis sous les bannières de partis nationalistes et populistes. Oleg Tertnibok, le chef du parti d'extrême droite Svoboda, dénonce une réforme constitutionnelle qui légitimerait les séparatistes pro-russes, leur accorderait une amnistie générale et une large autonomie. C'est-à-dire une capitulation pure et simple de l'Ukraine face au Kremlin.
Ils disent que ceux qui sont opposés à ce projet de loi sont contre la décentralisation. Ce n'est pas vrai. Nous sommes pour la décentralisation. Mais nous sommes contre ces changements qui cachent simplement la défaite de notre pays face à l'envahisseur russe. Mes amis, c'est une grande honte et une trahison. Nos dirigeants politiques ne peuvent pas faire ça. Ils doivent protéger l'intérêt national et non les intérêts des oligarques qui font leur beurre sur le dos des gens.
À l'intérieur du Parlement, dans une ambiance tumultueuse, les députés adoptent le projet de loi en première lecture. Quand la nouvelle se répand, la manifestation devient vite violente. Une grenade fait des ravages parmi les rangs des policiers. Bilan 3 morts et plus de 140 blessés. Une telle explosion de violence dans le centre de la capitale ukrainienne provoque une vive émotion. Mais le scandale politique ne s'arrête pas là pour autant. La coalition gouvernementale se fissure et le futur de la réforme est depuis très incertain. À quelques rues du Parlement, Rostislav Pavlenko est le chef adjoint de l'administration présidentielle de Petro Poroshenko, un des principaux experts sur ce projet de réforme constitutionnelle.
Il y a juste un article dans les conclusions de ce projet de réforme qui stipule que le mode de gouvernement de certains districts des régions de Donetsk et Luhansk sera défini par une loi à part.
Dans le calme de son bureau, Rostislav Pavlenko est visiblement lassé des querelles politiques qui vont à l'encontre de l'intérêt général.
Certaines forces politiques ont cru bon d'accuser le président de trahir les intérêts nationaux ou encore d'ouvrir la voie au séparatisme. Mais on parlera des compétences spéciales accordées aux territoires occupés uniquement après l'organisation d'élections prévues par les accords de Minsk. Il faut avant tout que les gens du Donbass élisent des représentants avec lesquels on peut parler et non des marionnettes choisies par le Kremlin.
En plus de cela, il faudra acter le retrait des troupes russes du Donbass et s'assurer que l'Ukraine a sécurisé sa frontière avec la Russie. Autrement dit, il faudra attendre que les territoires aujourd'hui sous contrôle séparatiste soient entièrement repassés sous souveraineté ukrainienne pour qu'ils aient droit à un quelconque statut spécial. À l'heure actuelle, ce scénario relève encore de la fiction. Au lieu du Donbass, Rostislav Pavlenko préfère donc parler de la décentralisation qui bénéficiera à l'ensemble des régions ukrainiennes.
Les chiffres sont clairs. En 1990, le PIB de la République socialiste soviétique d'Ukraine était au même niveau que celui de la Pologne. Aujourd'hui, la Pologne est trois fois plus riche. Il y a beaucoup de raisons à cela. Mais ce n'est que maintenant que nous engageons des réformes que nos voisins ont menées il y a 20 ans. Donc, nous voulons créer des communautés de communes. Des communes vont s'unir afin de former des ensembles plus importants et plus cohérents. Nos districts vont ressembler aux départements français et assurer une mission de coordination. Et les régions auront des compétences accrues.
À en croire Rostislav Pavlenko, le projet de décentralisation est le fruit d'une réflexion collective qui devrait bénéficier à tous. Mais nombreux sont ceux qui dénoncent une réforme concoctée par une petite poignée d'individus proches du président, dans l'opacité la plus totale. Sergueï Tarouta est député et oligarque. Il était gouverneur du Donbass lors des premiers troubles du printemps 2014. C'était alors l'un des plus fervents défenseurs d'une décentralisation de l'État. Mais sur le projet actuel, il se montre sceptique.
Malheureusement, il n'y a aucun consensus public parce qu'il y a confusion sur deux questions différentes. La question du Donbass et celle de la décentralisation. Concernant la décentralisation, les discussions se sont tenues à huis clos et c'est dommage. En tant qu'ancien gouverneur, je dois dire que ce projet ne ressemble pas du tout à celui dont j'avais discuté l'année dernière avec l'équipe du président. Dans les faits, la décentralisation est partielle.
En parallèle de cette question du statut spécial du Donbass séparatiste, on accuse Petro Poroshenko de proposer une décentralisation en trompe-l'œil.
Dans ce pays, il persiste une tradition d'être dépendant de ce qui vient d'en haut. Il faut refuser cet état de fait. Il faut faire confiance aux gens pour mener leur propre vie.
We have to believe people.
Oleg Berezyuk est le chef du groupe parlementaire du parti Samopomitch. Basé à l'ouest de l'Ukraine, cette force politique a fait de la décentralisation une de ses priorités. Ses députés se sont néanmoins opposés à la réforme constitutionnelle actuelle. Oleg Berezyuk pointe du doigt l'institution d'un réseau de préfets directement lié au président. À travers eux, Petro Poroshenko conserverait des pouvoirs considérables.
The authors of the Constitution.
Les auteurs de la réforme parlent de décentralisation, mais ce terme n'est pas exact. Selon ce projet, le préfet a des super-pouvoirs. Il est tout à la fois. Il est un gestionnaire, un coordinateur et un secrétaire des collectivités territoriales. Et il a même le droit de demander au président de suspendre un autre élu. Si un tel projet arrivait à terme, ce serait tout simplement de l'usurpation de pouvoir.
Pour l'experte en droit constitutionnel Yarina Jourba, cette idée d'usurpation de pouvoir n'est ni plus ni moins qu'une autre manipulation politique.
It's one of the myths.
Notre système est déjà extrêmement centralisé. Quand on veut un service administratif, aujourd'hui, on ne s'adresse pas à son conseil municipal, élu au niveau local, mais plutôt à l'administration d'État, imposée par la hiérarchie. Donc, dire que le préfet va disposer de pouvoirs accrus, c'est impossible, puisque les représentants de l'État ont déjà tous les pouvoirs.
La cacophonie politique n'en finit plus. Chacun tente de tirer son épingle du jeu avant les élections locales du 25 octobre. À quelques heures en train de Kiev, direction la région de Donetsk, divisée par une guerre hybride et meurtrière. La ville de Sloviansk est aujourd'hui sous contrôle ukrainien. Jusqu'en juillet 2014, c'était un bastion des séparatistes. Avant l'apparition de groupes de mercenaires pro-russes et russes armés et les premières violences, les habitants avaient manifesté pour réclamer plus de pouvoir pour leur ville et leur région. Autant dire que la décentralisation est très attendue ici.
Cette décentralisation est évoquée depuis 20 ans. Rien n'a été fait jusqu'à présent, c'est donc positif. Avec cette réforme, nous pourrons appliquer le principe de subsidiarité, c'est-à-dire agir à notre niveau et prendre des décisions sans consulter les autorités supérieures.
На своём уровне то мы будем делать. Вот и не надо формировать теперь снизу вверх, а потом сверху вниз.
Oleg Zontov est l'administrateur de la mairie de Slaviansk. C'est un technocrate qui n'a pas été élu, car l'ancienne maire est aujourd'hui en prison pour avoir soutenu les séparatistes. Oleg Zontov ne voit pas l'instauration de super-préfets comme une menace, bien au contraire.
Beaucoup de gens disent que s'il y avait eu un contrôle présidentiel il y a un an et demi et des ordres appropriés, tout ce que l'on vit maintenant ne se serait jamais passé.
Sur la question de la décentralisation, le gouverneur de la région, Pavlo Jebrivski, tempère. Selon lui, c'est important pour le reste de l'Ukraine, mais pas tant pour le Donbass.
L'État ukrainien était aux abonnés absents dans le Donbass depuis l'indépendance du pays. C'est aussi ça qui a rendu la guerre possible. Cette région avait été régie d'abord par les communistes, puis par des bandits. Les mentalités sont assez particulières ici. Et donc notre première mission, c'est de développer l'État et d'y associer les populations locales. Une fois que ce sera fait, on pourra parler de décentralisation, de fédéralisation, d'humanisation et d'autres mots en sion. Cela n'aura pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans la tête des gens.
La décentralisation dans la région ne se fera donc qu'au compte-gouttes. Il était prévu de créer 9 communautés de communes, seulement 3 verront le jour dans un premier temps. Et dans la plupart des collectivités territoriales, le système actuel d'administration hybride, à la fois civile et militaire, devrait perdurer au moins jusqu'à la fin des opérations militaires.
Ok, d'accord.
Originaire de Donetsk, aujourd'hui en exil, le jeune défenseur des droits civiques Sergueï Popov est bien conscient des enjeux d'une décentralisation de l'État dans une région en guerre. Il insiste néanmoins pour envoyer un signal fort aux collectivités territoriales.
Si dès le début on donne l'impression que la communauté de communes ne peut pas fonctionner correctement, alors les investisseurs ne viendront pas s'y installer. Et cela compromettra les chances de développement et d'épanouissement des habitants. S'ils sentent qu'ils n'ont aucune perspective, alors qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tout simplement partir ailleurs. Notre préoccupation première doit être de créer les conditions pour que chacun et chacune puisse travailler là où il vit.
Pour Sergueï Popov, il ne faut pas que les différents politiques prennent le pas sur l'intérêt général. Les populations locales ont déjà trop souffert. Et elles attendent de réels changements.
Nous n'imaginons pas cette réforme dans un bureau. Nous allons dans les villages, nous parlons aux gens. Ils sont intéressés par ce processus. Ils veulent prendre leur destin en main.
À une quarantaine de kilomètres de Slaviansk, le petit village d'Andriivka est en pleine ébullition. Quand la loi sur la décentralisation sera adoptée, Andriivka deviendra le centre d'une communauté de 13 communes.
Le but de cette union avec les autres communes, c'est de pouvoir gérer nous-mêmes les revenus de la terre. Notre conseil communal pourra ainsi décider de manière claire de notre budget. Jusqu'à maintenant, nous n'avons pas de budget propre. Nous transférons tous nos revenus aux autorités régionales qui nous reversent ce qu'elles veulent. À la région, on ne comprend pas ce qui se passe ici. Ces fonctionnaires habitent en ville, là-bas.
Mykola Dirtenko est le maire d'Andriivka. On compte moins de 900 habitants dans le village, mais son téléphone sonne sans cesse. De fait, lui n'a pas attendu que Kiev décrète une quelconque décentralisation. Il affirme avoir une politique de corruption zéro. Les routes de son village sont bien entretenues, les éclairages de rue fonctionnent bien. Il est allé lui-même négocier des financements de partenaires allemands pour reconstruire le toit de l'école. Mykola Dirtenko organise une visite de son village pour démontrer comment, avec peu de moyens, on peut assurer un niveau de service public décent. Dans la maison de la culture, lui et les employés municipaux sont très fiers de leur travail. Des artistes de toute la région viennent ici pour se produire en spectacle.
C'est parce que nous travaillons par nous-mêmes, pour nous-mêmes. C'est ça qu'on appelle la décentralisation.
À quelques kilomètres à peine de la ligne de front, le petit village d'Andriivka se construit un avenir meilleur. Tout semble prêt pour saisir les nouvelles opportunités qui devraient être offertes par la décentralisation. Il ne reste plus qu'à attendre que cesse la cacophonie politique dans la lointaine capitale Kiev. Ukraine, la décentralisation est-elle un trompe-l'œil? Un grand reportage de Sébastien Gobert à la réalisation sous Al-Kedir. Веселі, брати, часи настали, ми наближаємось до мети. Чому ж тоді я шукаю іншу стежку, чому я далі з ними не хочу йти? Чому ж тоді я шукаю іншу стежку, чому я далі з ними не хочу йти?
Sébastien Gobert, bonjour.
Bonjour.
Vous mentionnez dans votre reportage les élections locales qui vont se tenir le 25 octobre prochain. Y a-t-il une chance que ce projet de décentralisation soit adopté avant ?
Non, aucune chance. Il fallait 226 voix pour faire passer le projet de réforme constitutionnelle qui inclut ce projet de décentralisation en première lecture. Il y en a eu 265, mais cela s'est fait dans la douleur. 3 des 5 partis qui composaient la coalition gouvernementale avaient voté contre. Les groupes parlementaires du président Petro Poroshenko et du premier ministre Arseniy Yatsenyuk avaient en fait dû se reposer sur le bloc d'opposition, un parti à la réputation sulfureuse qui regroupe des représentants de l'ancien régime corrompu de Viktor Yanukovych. Pour faire passer le vote en deuxième lecture, il faut désormais une super majorité de 300 voix. Mais après le vote et les violences meurtrières devant le Parlement, un parti, le Parti radical, a quitté la coalition et l'atmosphère est très tendue entre ceux qu'il reste des partis qui se disent réformateurs. Selon la loi, le Parlement a jusqu'à la fin de l'année pour adopter ce projet de manière définitive, dont Petro Poroshenko s'accorde un peu de répit. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de fait, si la coalition soi-disant réformatrice n'a pas pu s'entendre sur un projet aussi important, c'est qu'elle est en état de mort clinique. Et non seulement la décentralisation sera difficile à faire passer, mais c'est bien tout l'agenda réformateur qui est remis en cause.
Mais alors cela veut dire que le 25 octobre, les Ukrainiens vont élire des maires et des conseillers régionaux qui auront des compétences sur le point d'être modifiées.
Oui, mais cela est prévu de longue date. Après l'adoption définitive du projet de décentralisation, il faudra de toutes les manières compter 2 ans pour la mettre en application. À l'issue de ces 2 ans, de nouvelles élections locales doivent se tenir pour élire des représentants vraiment décentralisés, si je peux dire. Mais ce calendrier pose tout simplement la question de la crédibilité des élections du 25 octobre. Pourquoi choisir des maires et des conseillers régionaux qui ne seront que l'émanation d'un vieux système et qui pour beaucoup seront affiliés à de vieux partis et à des oligarques ? La campagne a commencé le 5 septembre et elle est censée se dérouler dans le cadre d'une nouvelle loi électorale adoptée avant l'été. Mais on voit d'ores et déjà que les partis techniques prolifèrent. Un parti technique en Ukraine, c'est juste une sorte d'association montée de toutes pièces pour représenter les intérêts d'un oligarque ou d'un groupe particulier. À travers la constitution des listes électorales et des diverses alliances ici ou là, on peut voir en fait que beaucoup de résultats électoraux sont prévus à l'avance. Et ce n'est pas ça qui va redonner confiance aux Ukrainiens dans leur politique.
Et cela, c'est pour les élections en Ukraine, mais on voit aussi, Sébastien, que les séparatistes pro-russes veulent organiser leurs propres élections locales, ce qui va aussi à l'encontre de cette réforme constitutionnelle.
Oui, en fait, cela va franchement à l'encontre du plan de paix prévu par les accords de Minsk qui ont motivé cette réforme constitutionnelle. En fait, il aurait fallu que les autorités séparatistes organisent des élections locales en conformité avec la législation ukrainienne. Ces petites républiques autoproclamées ne peuvent pas l'accepter, donc il va y avoir des élections le 18 octobre à Donetsk et le 1er novembre à Lugansk. Il faut préciser que tout cela reste très flou et qu'il est fort possible que le calendrier change dans les prochaines semaines. Dans le cadre de ce reportage, je n'ai pas pu me rendre sur place car ni moi ni beaucoup de collègues occidentaux n'en ont reçu l'autorisation. En fait, il semble qu'il y a beaucoup de conflits internes dans ces républiques et encore plus de pression externe sur leurs dirigeants. C'est aussi pour cela que la situation reste incertaine. Mais tant que cela ne sera pas réglé, eh bien le processus de paix restera gelé et on n'est pas prêt de parler de loi spéciale ou de statut spécial pour ces territoires. Pour conclure, je veux juste mentionner quelque chose d'autre que j'ai constaté pendant ce reportage, c'est que dans le Donbass, la séparation semble déjà bel et bien actée. La ligne de front est d'ores et déjà une frontière très contrôlée, les collectivités territoriales s'organisent tant bien que mal dans un territoire divisé, et l'essentiel pour les populations locales, eh bien c'est que la ligne de front reste stable et que le cessez-le-feu tienne bon, le reste semble secondaire.
Sébastien Gobert, merci d'avoir été avec nous pour cette émission de Grand Reportage. Votre reportage en Ukraine, on peut le retrouver sur notre site internet sur rfi.fr.
Поділися голоси, часи веселі настали, нас лишилось так мало, ну і брати такі часи, часи веселі настали, нас лишилось так мало, ну і брати такі часи. Як не ми, брати, і зуби сильно стиснувши, маму ніжно любити, хто ж тоді, як не ми, брати, хто ж тоді, як не ми, брати, хто ж тоді, як не ми, брати.
L'épopée des musiques noires.